Europe 1. La France bouge, la saga.
En 1958, l'État décide de faire du quartier de la Défense un quartier d'affaires. Et pendant plus de 20 ans, jusque dans les années 1980, un terrain reste libre au bout de la dalle de la Défense. Et on ne sait pas trop quoi en faire, il n'est pas très grand. Et surtout, il est délimité à l'ouest par une voie de chemin de fer. Virginie Picon-Lefebvre, historienne et co-auteure d'un livre sur la Grande Arche de la Défense.
Un certain temps, au moins une dizaine d'années, on a organisé des concours successivement pour savoir ce qu'on allait pouvoir faire là. Et le dernier concours, juste avant l'élection de François Mitterrand, avait eu un lauréat qui était Émile Ayot, qui avait fait un projet d'un immeuble en courbe et qui aurait dû être construit à cet endroit-là. Mitterrand a été élu président de la République, demande à interrompre, ou plutôt on lui recommande d'interrompre ce concours et lance un concours international pour ce qu'on appelait à l'époque la tête défense, c'est-à-dire ce terrain à l'ouest, à l'extrême ouest de la zone A de la défense.
Ce concours international est lancé le 7 juillet 1982. Immense succès, plus de 400 projets sont présentés.
Et on choisit un projet qui présente donc une forme tout à fait singulière, qui est un grand cube, un tout petit peu décalé, posé donc sur ce terrain. Et on découvre que l'architecte de ce projet est un architecte danois complètement inconnu qui s'appelle Johan Otto von Spreckelsen, qui donc devient le lauréat de ce qu'on appellera ensuite la Grande Arche de la Défense.
Voilà pour la structure, mais que faire à l'intérieur? Le projet initial prévoit un carrefour international de la communication, une sorte de grande bibliothèque, un lieu de réseau, de partage, une idée utopique, floue et pas très concrète. Quand Jacques Chirac devient Premier ministre en 1986, il décide d'en faire quelque chose de plus simple, un immeuble de bureau.
On décide que une des deux pattes de l'arche, celle qui est située, donc quand on regarde vers l'ouest, celle qui est située au sud, sera affecté au ministère de l'équipement qui devait en fait quitter ses bureaux qui étaient situés à Paris. Et donc il y a une sorte d'opportunité, ça permet de trouver tout de suite des utilisateurs pour cette partie-là de l'édifice. Et on décide donc d'installer de manière très symbolique le ministère de l'équipement dans ce qui devient finalement le centre de la défense d'un point de vue symbolique comme d'un point de vue formel.
Son architecte Johan Otto von Spreckelsen l'avait décrit comme un cube ouvert, fenêtre sur le monde, situé dans l'alignement quasi exact qui démarre à la pyramide du Louvre et passe par l'Arc de Triomphe. La Grande Arche devient immédiatement un symbole, presque un monument.
En fait, la Grande Arche de la Défense, elle est à la fois un projet très conservateur, un projet presque d'Arc de Triomphe, un troisième arche sur cet axe, et en même temps un projet beaucoup plus novateur, puisque ce n'est pas vraiment une arche. C'est un cube évidé qui est posé sur l'axe. En même temps, il est un peu décalé et qui, contrairement aux autres, a cette espèce d'emmarchement très majestueux.
Un cube évidé, donc, dont le poids équivaut tout de même à 4 tours Eiffel. Longtemps fermé au public, les derniers étages sont aujourd'hui ouverts. Les visiteurs peuvent se promener sur une terrasse perchée à 110 mètres de haut, avec une vue imprenable sur Paris.
Et voilà, on en sait plus sur cette Grande Arche de la Défense qui est donc située dans ce quartier de la Défense, le plus grand quartier d'affaires en Europe. Merci Quentin Payet.